Question d'Islam par Alain Benchir. Aujourd'hui, nous parlons du djihad, mais du djihad de l'amour. Pour certains, c'est un oxymore, puisqu'on a perdu à jamais le sens premier du mot. Pour d'autres, cela demeure, c'est un effort, et c'est un effort amoureux. C'est cet appel bouleversant de Mohamed El-Bachiri que nous écouterons aujourd'hui. Mohamed El-Bachiri, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir parler de votre appel à la réconciliation. Vous avez vécu une histoire émouvante, particulière, et vous voulez en rendre compte par cet appel et par le djihad de l'amour, qui est le titre aussi de votre ouvrage paru chez Jean-Claude Lattès. Vous êtes vous-même un auteur lu et un écrivain reconnu. Pourquoi parlez-vous du djihad de l'amour?
Pour moi, il était important de parler de ce djihad de l'amour que j'ai connu, que l'on m'a transmis, que je vis, qui est pour moi essentiel. Et qu'il est important aujourd'hui de mettre en avant parce que je pense que des personnes, hélas, ont dénaturé le message originel, le sens profond de ce qu'est le djihad, à savoir l'effort, cette espèce de conatus. C'est cet effort qui appelle un travail sur soi, un travail permanent, un travail dans une quête d'élévation à la fois spirituel, mais aussi tout simplement d'être quelqu'un de meilleur pour vivre, essayer de vivre avec les autres dans un monde meilleur et peut-être tendre vers l'harmonie. Pour moi, c'est ça l'idée du djihad, c'est l'effort contre toute passion triste.
Nos auditeurs nous ont entendu le dire à ce micro, doivent le savoir, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a les deux djihads, les deux efforts, l'effort majeur salvateur et l'effort mineur. Commençons par l'effort mineur. L'effort mineur, c'est celui qui est tourné vers l'extérieur, moissonné, cultivé, travaillé, trimé, fagoté, guerroyé. Parce qu'il ne s'agit pas d'éluder ce qui est devenu la corruption même du sens de djihad. Ce n'est pas que le combat sacré, comme certains le pensent et le disent. Et il y a le djihad majeur, l'effort salvateur, c'est celui-là que vous pratiquez vous-même tous les jours.
C'est exact, et je dirais même que ce djihad premier, en fait, permet justement de corriger le petit djihad, parce que moi j'estime que guerroyer est quelque chose qui est tout sauf spirituel ou divin en fait. En fait la guerre c'est quelque chose d'anthropologique, voilà, on peut faire la guerre pour 10 000 raisons. Un message spirituel, un message logiquement spirituel, un message qui devrait venir du plus sage, de cette entité qui nous dépasse, devrait nous inciter à éviter de mettre en avant ce côté bestial et de se tourner vers quelque chose de plus paisible. Parce que prôner la guerre au nom de Dieu, et ça je le dis assez souvent, c'est presque parfois attribuer à Dieu des caractères presque humains. C'est-à-dire qu'on parle parfois de Dieu en colère, de Dieu fâché. Je trouve qu'on sombre dans une espèce d'anthropomorphisme. Et je dirais même plus, des fois j'ai l'impression qu'on considère Dieu comme Zeus, en fait. C'est un espèce de Dieu qui est dans l'Olympe. Il est unique, certes, mais il ressemble à Zeus parce que voilà, il s'ennuie peut-être à mourir et comme il est éternel, ben, c'est pas de chance. Donc du coup, il va créer des humains qui vont guerroyer entre eux, qui vont faire plein de choses. Et donc, il va récompenser certains, punir d'autres. Et je pense que c'est une espèce de caricature de Dieu que l'on fait, que l'on devrait peut-être changer, en tout cas réfléchir sur justement cette question de Dieu.
Bien sûr, on réfléchira sur cette question de Dieu. Vous dites, pour revenir à la guerre, que la guerre n'est pas sainte, d'ailleurs qu'une guerre n'est sainte. Et j'ai lu que vous avez écrit que la guerre est maudite, elle ne peut pas être sanctifiée, encore moins commanditée par le divin, par Dieu. Et tout cela vous a amené à réfléchir, parce que nous ne l'avons pas encore dit, je ne l'ai pas dit. Vous êtes de Molenbeek.
C'est exact.
Vous vivez, vous êtes un citoyen belge, et vous avez eu ce terrible drame, c'est que votre épouse, votre bien-aimée épouse, votre tendre épouse a été fauchée par un attentat islamiste, celui du 22 mars 2016. Et ça, c'est le drame, bien sûr, que doit subir toute personne humaine lorsque se voit amputée comme ça par un être cher. Et c'est le cas de Loubna, la défunte Loubna.
Ben oui, hein, ben c'est le destin qui nous a frappés. Et à travers le jihad de l'amour, à travers ce livre, mais à travers aussi le message que j'essaye de diffuser, à travers les différentes rencontres, j'essaie de rendre hommage, hein, avant tout à mon épouse, à ce qu'elle était. Et aussi à répondre justement à la terreur par ce message qui pour moi est essentiel, ce message d'amour, ce message profondément humaniste, ce message universel qui a toujours été porté aussi bien par mon épouse que par moi, parce que voilà, tout en étant de confession musulmane. Et je pense que c'est important de en tout cas pour moi, de pouvoir lui rendre hommage et de donner quelque part un sens à sa mort. Moi, je pense que dans cette vie, si on a une mission à avoir, ce n'est pas de changer les autres, ce n'est pas de convertir les autres. On parlait tout à l'heure de prosélytisme. Je suis absolument pas là-dedans. Je pense que la plus belle des missions pour chaque être humain, c'est de réconforter l'autre et de chercher du réconfort auprès de l'autre. Tout simplement.
Vous dites aussi qu'il ne faut pas réduire l'être à son acte. L'être humain est à aimer, ses actes, aussi exécrables qu'ils puissent l'être, sont condamnables, bien entendu, et il faut détester le crime, mais l'homme restera l'homme.
Oui, mais c'est aussi, encore une fois, ça demande aussi un jihad, un effort pour justement en arriver là, et pas sombrer dans la colère, dans la haine, dans ce qui pourrait être à la vengeance. Et peut-être faire preuve un peu de hauteur, chercher à comprendre malgré tout, même si c'est très difficile, chercher à comprendre, pas pour accepter, mais
peut-être... Parce que comprendre n'est pas admettre.
Absolument, mais justement, oui, c'est là où je voulais en venir. Comprendre n'est pas admettre, mais comprendre est indispensable. Parce que c'est à travers le travail de compréhension qu'on peut... essayer justement de comprendre l'autre pour peut-être mieux communiquer avec lui, en fait. Et peut-être...
Donc, vous n'êtes pas dans l'idée que comprendre, c'est déjà excuser.
Ah non, absolument pas. Absolument pas. Non, non. Comprendre est indispensable, en fait. C'est quelque chose de même nécessaire.
Parlons maintenant de votre éducation, parce que vous dites que votre père vous a transmis des valeurs dont essentiellement celle de la miséricorde, qui vous en témoignez, est omniprésente dans votre éducation, mais surtout dans la tradition religieuse islamique.
Ben oui, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très curieux. Il n'avait pas fait d'études, mais il avait une grande culture générale. C'était toujours un plaisir de l'écouter. Et oui, il nous a transmis des belles valeurs, des belles valeurs de partage, de tolérance. Je lui suis reconnaissant. Je parle dans le livre du passage avec d'une anecdote. Je ne sais pas si vous comptiez en...
C'est celle à propos de Mère Teresa.
De Mère Teresa.
Celle-là, elle est très intéressante. Nous pourrions peut-être en faire le commentaire après, mais je vous laisse raconter cette anecdote.
Oui, j'en parle dans le bouquin, et c'est intéressant. Donc, c'était, je devais avoir 7 ou 8 ans à l'école, j'étais à l'école catholique. D'ailleurs, j'en garde de très beaux souvenirs, et j'ai une part de chrétienté en moi, hein, dans ma culture, et c'est intéressant. C'est intéressant, et c'est important de le savoir, hein, parce que c'est ce brassage de culture qui fait ce que je suis, en fait, hein, au final. Nous avions fait un travail sur Mère Teresa de Calcutta, et donc on avait vu toutes les choses formidables qu'elle faisait en Inde, et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc c'était une femme qui avait consacré sa vie pour les pauvres. J'ai trouvé ça très très beau, et j'étais vraiment très touché. Et donc en rentrant chez moi, j'en ai parlé à mon papa, en lui disant, voilà, on a étudié la vie d'une femme extraordinaire, elle s'appelle Mère Teresa, etc., etc. Et mon papa me disait, ah oui, c'est super, c'est bien, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et bon, vient la question de la récompense dans l'au-delà, parce que pour moi, c'était quand même important. Et donc, je lui dis, oui, mais Mère Teresa, est-ce qu'elle va aller au paradis? Parce qu'elle a quand même été très gentille sur Terre. J'avoue que là, mon papa, qui est très tolérant, très ouvert, me dit, un peu embêté, je sais pas, est-ce qu'elle était musulmane? Je lui dis, ben non, elle était chrétienne. Et il me dit, ben, si elle n'était pas musulmane, ben, en principe, non. Elle va peut-être pas souffrir dans la tombe, comme elle a été quelqu'un de bien, mais comme elle n'a pas été musulmane, ben, en principe, elle n'ira pas au paradis. Donc, elle ira en enfer. Et je dois vous avouer que ça m'a quand même assez choqué. Il y a comme un sentiment d'injustice qui s'est révélé en moi. Mais comme je le dis dans le livre, je n'avais que 7 ou 8 ans et je ne voulais pas jouer les révolutionnaires auprès de mon papa. Et donc, voilà. Mais ça m'était resté.
Et donc, il y a eu tout un cheminement depuis. Nous avons consacré dans cette émission une, particulièrement ce qu'on appelle en termes techniques la sotériologie, c'est-à-dire le salut, les âmes sauvées. De nos jours, ça n'a plus aucun sens de réserver le paradis à supposer qu'il soit tel qu'il est décrit dans sa littéralité uniquement aux musulmans. C'est le séjour des êtres vertueux et des bienheureux. C'est un peu comme les Champs-Élysées des Grecs en réalité. Ouais. Et là, vous-même êtes convaincu désormais que le paradis n'est pas réservé qu'aux musulmans.
Oui, si j'ai une intime conviction, c'est bien celle-ci, c'est que moi, je pense qu'il est important à un moment donné de pouvoir lire entre les lignes et d'aller au-delà des textes, vous savez, j'ai découvert Spinoza. Le dieu de Spinoza, il est juste extraordinaire. Moi, en tant que musulman, je me retrouve complètement dans le dieu de Spinoza, de ce dieu d'amour, ce dieu qui n'attend finalement pas grand-chose de nous, parce que Dieu est tout et il ne désire rien de nous. Si ce n'est que d'être peut-être des gens qui tendront vers quelque chose de
bon. Alors, parlant de Spinoza, Mohamed el-Bachiri, j'ai lu que, à un moment donné, quand vous parliez de votre vie avec Lubna, votre épouse défunte, vous dites qu'elle est plus organisée, alors que vous êtes un peu dans le désordre et vous êtes un
Diogène.
Ouais. Diogène de Cynique ou Diogène de Sinope. Alors en quoi vous faites allusion à Diogène? À notre connaissance, à nous, il est connu notamment par cet échange avec Alexandre, ouais, très court.
Autour de mon soleil. Mais je fais allusion, c'était un petit clin d'œil à Diogène de Sinope, que je trouve assez intéressant, mais c'est surtout la question de... Vous savez, je pense que pour être heureux dans la vie, en tout cas pour mener une vie bonne, il faut en nous qu'on ait une part de cynisme, qu'on ait une part de scepticisme, qu'on soit un peu épicurien, qu'on soit stoïcien. Toutes ces choses-là, moi, m'aident, mais vraiment énormément. Et pour moi, tous ces penseurs profanes sont des trésors pour l'humanité. Je le dis avec avec beaucoup de sincérité, tout en étant musulman en fait. Et moi, j'invite vraiment les gens à se tourner vers la pensée universelle, parce que c'est encore une fois c'est un cadeau, c'est salvateur. Moi, dans mon expérience de vie, dans ce que j'ai vécu, Parce que beaucoup de gens me demandent, est-ce que c'est la foi en Dieu qui t'a sauvé, etc., etc. Pour être honnête, je ne pourrais vous dire oui, c'est Dieu qui m'a aidé, c'est Dieu qui m'a sauvé. Ce serait mentir. Je dois avouer que ce qui m'a aidé, c'est peut-être une part de foi en Dieu, mais c'est aussi beaucoup tous ces penseurs, toutes ces choses qui... toutes ces rencontres. Hein.
Et un fond de sagesse universelle.
Exactement, mais c'est ça en fait. C'est cette sagesse universelle qui pour moi est indispensable et qui est l'espoir pour un monde meilleur. Et
vous vous mettez à lire, vous lisez de Confucius à Spinoza, certains auteurs musulmans, d'autres non musulmans, et cela vous a aidé à accuser le coup en réalité, parce que le choc était tel.
C'est ça, mais c'est un peu, c'est mes coachs de vie en fait.
Vous dites que voilà une personne qui sort en embrassant ses enfants et elle ne revient plus. C'est le caractère soudain et c'est un grand effroi comme elle est décrite. Mm-hmm. Le Coran la décrit ainsi. Je parle de la mort d'une manière générale.
Oui, c'est quelque chose de terrible. C'est après. Ça reste un traumatisme, ça reste une blessure, c'est quelque chose qui va m'accompagner toute ma vie, mais pour moi il est essentiel quand même de... Je pense qu'il y a le... Peut-être que le fait d'être curieux, épicurieux, pour utiliser le terme de Jamy qui... et c'est super intéressant, peut-être m'a quelque part sauvé et développe en moi une espèce de gêne du bonheur peut-être, de la joie. On parlait de Spinoza, le philosophe de la joie, c'est le philosophe qui nous invite à mettre de côté nos passions tristes. Je trouve ça extraordinaire. Et ne pas sombrer dans quelque chose, dans une espèce de fatalisme. Même au sein de notre propre religion, la manière dont on nous a transmis les choses, parfois, il y a énormément de choses à revoir. Vous savez, la peur, la mort... Toutes ces choses-là qui sont vues de manière assez... La culpabilité qui sont vues de manière... Et toutes ces choses-là peuvent engendrer beaucoup de dépressifs, en fait.
Et moi... Et puis une schizophrénie entre la réalité vécue et ce qu'on voudrait être. Là aussi, si je ramène les choses au cas français, il ne doit pas y avoir de schizophrénie entre spiritualité et citoyenneté.
Ah oui, mais ça c'est clair et net. Mais il y a aussi des troubles identitaires et une religion n'est pas identité. Je sais plus qui avait écrit ça, mais je trouvais ça très beau. La religion n'est ni identité, ni culture, ni nation. C'est un lien avec Dieu. C'est quelque chose d'intime.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec Mohamed El-Bachiri, nous parlons du djihad de l'amour. Dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, le vocable, le terme djihad renvoie à la terreur. Vous l'associez à l'amour parce que ce n'est peut-être pas facile, j'ajoute le peut-être, parce que je ne vis pas les choses comme vous le vivez, vous les vivez vous-même avec courage. Il faut un effort extraordinaire pour continuer à vivre, à aimer, notamment après le drame que vous avez connu. Nous n'avons pas parlé de vos enfants. Vous aviez, avec Loubna, votre épouse, 3 enfants.
Oui, c'est exact, qui ont aujourd'hui 8 ans, 13 ans et 15 ans.
Rappelons que le drame a eu lieu suite à l'attentat du 22 mars 2016.
Oui, ils avaient à cette époque-là 2 ans, 7 ans et 9 ans. Oui, c'était...
Et donc vous leur avez expliqué que ce sont des méchants qui ont agi de la sorte, mais ce n'est pas une raison de les haïr.
C'est ça. C'est ça. C'était surtout par rapport à un de mes fils qui me dit est-ce que ce sont des... parce que moi j'ai... Loubna et moi, on a toujours essayé de transmettre des valeurs profondément humanistes, des valeurs de tolérance. Et donc, à un moment donné, j'ai quand même été confronté à plein de questions et à de la colère légitime de la part de mes enfants. Et donc, un de mes enfants qui me dit est-ce que ça reste des frères en humanité ? Ben, je lui ai répondu oui, ce sont des frères en humanité, mais ce sont des criminels, ce sont des gens qui ont commis des actes ignobles. Mais la fraternité, elle est inconditionnelle, en fait, humainement parlant. Et je pense que, avec une vision pareille, on peut toujours espérer, on peut toujours croire à la rédemption. Parce qu'au final, vous savez, moi, la vengeance, j'ai réfléchi par rapport à la notion de vengeance, ou par des co-religionnaires qui me disaient, t'inquiète pas, ils vont finir en enfer. Sincèrement, mais personnellement, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi que des personnes souffrent, ou souffrent éternellement, ou brûlent éternellement? Si cela me serait amené à me faire du bien, je pense que je devrais consulter. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je cherche la paix, et je cherche la paix pour moi et la paix pour les autres, en fait. Et donc, la notion de vengeance, cette notion de fausse justice, je ne suis pas... Je ne sais pas, je ne la conçois
pour
pas.
Pour la justice des hommes, si on devait attraper les criminels, ils ont à rendre compte de leurs
très
actes.
Très clairement, et pour ça, il n'y a aucun souci. Mais bon, là, je demande même des peines exemplaires, mais accompagnées... Je l'ai déjà dit lors d'interviews. Ben, pour moi, il est important que justice soit faite. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait un travail. C'est-à-dire que si la personne, après 20 ans de prison, ou 10 ans, ou peu importe, ressorte et a les mêmes idées, mais finalement, la société a perdu, en fait. Voilà, on a juste mis le problème de côté pendant un moment, et basta. Tandis que c'est une forme de justice réparatrice, en fait. Moi, je préférais que ces gens-là puissent prendre conscience de leur acte et changer, en fait.
Alors, Mohamed El-Bachili, vous parlez de votre quartier, Molenbeek, et vous dites qu'il est méconnu. Ce n'est pas la réalité vécue. C'est qu'il y a de la solidarité, de l'entraide, de l'écoute, et que vous l'avez éprouvé vous-même, donc suite à ce drame, suite à l'attentat, l'élan de solidarité que vous aviez connu de la part de vos voisins et même d'autres.
Ah oui, c'était quand même assez beau, et je dois avouer qu'au sein de la communauté musulmane, il y a quand même, dans des moments comme ça, il y a quand même beaucoup de compassion, beaucoup de solidarité, et c'était quand même...
Oui, mais l'élan de solidarité n'est pas venu que des musulmans.
Pas que des musulmans. Dans un premier temps, pour Molenbeek et par rapport à ma famille et à mes amis proches de confession musulmane, ben, il y a eu un élan de solidarité, on va dire intracommunautaire. Mais très clairement, après, c'est un élan de solidarité, mais venu de partout. Et avec ce qui est surtout beau, c'est que c'était des prières venues de partout. C'est-à-dire que j'ai eu des prières venues de chrétiens, de juifs, de personnes qui étaient athées. Et toutes ces prières, c'était une énergie. C'était une seule religion, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a porté, c'est quelque chose qui... vraiment, il faut le vivre pour le comprendre, je pense. Et en fait, ça n'a fait que conforter ma vision des choses par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à la diversité. Chaque croyance, chaque philosophie est belle et elle peut nous apporter des choses très belles et on devrait lutter pour que ça reste comme ça en fait. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à transformer le monde, comme encore une fois les obscurantistes cherchent à convertir tout le monde, à imposer leur vision des choses, je pense que nous on devrait, et même d'ailleurs, même dans le Coran, il y a un verset qui dit: si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous qu'une seule communauté. Il en a fait plusieurs pour que vous entre connaissiez. Mais
c'est le fameux verset 48 de la sourate 5.
C'est ça, mais bon, j'utilise un peu la rhétorique parce que oui. ils utilisent aussi certains versets du Coran, mais je pense qu'avec rien qu'avec ce verset, bon, on peut très bien dire qu'aussi que
si Dieu l'avait voulu, à chacun d'entre vous, nous avons donné une voix et une loi. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait, chercher à vous surpasser les uns les autres dans les bonnes actions. Un jour, vous retournerez à Dieu, alors il vous éclairera au sujet de vos différences. J'arrête là la récitation du verset, mais en tout cas, c'est ce verset qui fonde la pluralité des options métaphysiques, la diversité du genre humain en réalité. Et si on devait rivaliser, certains parlent plutôt d'une émulation, c'est à qui allège le fardeau qui accable le dos de l'homme qui souffre.
Ben, du coup, c'est une volonté divine. Le fait qu'il y ait justement cette diversité, cette altérité, c'est une volonté divine. Et aller contre cela, c'est aller à l'encontre de la divinité. C'est le musulman qui parle. Hein. C'est aller à l'encontre de la volonté divine.
Comment expliquez-vous, Mohamed Bachiri, que l'appartenance à une religion et dans une optique obsessionnelle d'observer tel ou tel rite ou telle norme canonique est devenue le tout de l'existence, alors que ça ne l'était pas à travers l'histoire, et que vous qui avez parlé d'identité, que l'identité soit puisée totalement dans la religion?
Je pense que y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Cette religion qui est opium du peuple et opium du petit peuple, hein. Vous savez, souvent dans les endroits où il y a des problèmes d'ordre social, économique, ben on a tendance à se tourner vers un dieu qui nous sauvera, vers un dieu qui nous promet le salut après une vie quand même assez rude, une vie de souffrance, une vie pas toujours très très juste. Et puis il y a aussi un climat, je sais pas moi, ici en France, en Belgique peut-être un peu moins, mais ici en France, le climat est très anxiogène. Vous savez, quand on pointe le doigt constamment sur l'islam, même si pour nous elle n'est pas identité, elle le devient, parce qu'à un moment donné, à force de pointer le doigt dessus, ben c'est quelque chose qui émerge, qui prend énormément de place, et finalement on ne devient que musulman. Mais parce que l'autre nous a pointé du doigt comme étant principalement et uniquement musulman, et donc, problème.
Et donc vous pensez, Mohamed Bachiri, que dès lors que vous ne me voyez que comme musulman, je corrobore à vos yeux mon appartenance à cette confession et à cette religion, et je l'exacerbe en quelque sorte.
Oui, c'est tout à fait ça, et plus encore, tant que vous me voyez comme musulman, mais de manière condescendante et de manière négative, en fait. C'est-à-dire que si on parlait du musulman de manière plus positive, bah, c'est sympa, c'est cool, et on peut passer à autre chose. Par contre, si on pointe du doigt l'islam, constamment l'islam, j'ai entendu des horreurs par rapport à l'huile, par rapport au mouton. À un moment donné, je pense que c'est...
Avec une confusion terrible, c'est oui. Que la fête du sacrifice ou le fait d'immoler un mouton n'est même pas une prescription religieuse absolue, et le fait de jeûner pendant le mois de Ramadan, donc, et cela se dit naturellement, sans aucune connaissance d'abord, oui. Et c'est aussi diffamatoire, le fait d'aller voler des moutons durant le mois de Ramadan.
Oui, moi je préfère en rire parce que c'est quand même, mais c'est quand même assez choquant qu'on puisse justement exprimer ce genre de choses comme ça très librement et très normalement.
Oui, et donc pour vous c'est un climat général. Alors comment sortir par le haut de cette crise qui a assez duré? De défiance, de méfiance, c'est en prônant, comme vous le dites et vous en témoignez, le djihad de l'amour. Dans votre esprit, djihad de l'amour, c'est pour que le mot djihad puisse recouvrer son sens premier, ou c'est une réalité, en plus de cela, que vous vivez vous-même? Parce que, encore une fois, ça nécessite de déployer un effort de ne pas haïr.
Exactement, mais c'est les deux, en fait. Pour moi, c'est les deux. C'est la nécessité de lui redonner ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Et puis, de mettre en pratique ce djihad de l'amour. Vous savez, moi, j'ai dû effectuer un travail sur moi-même. Moi, je suis molenbeekois. Tout petit, j'ai grandi dans les quartiers. On avait une vision assez négative des autres, même des blancs. Même des blancs, on avait une vision négative des blancs. On n'en voyait pas souvent, donc on avait des préjugés par rapport aux autres. J'ai dû travailler tout ça. J'ai dû faire un jihad pour aller au-delà de tous ces préjugés, de toutes ces choses qu'on aurait pu m'inculquer. Ou même au niveau même de l'éducation, en disant que nous, on a la vérité, les autres n'ont pas la vérité. Attention, les autres sont si... Et moi, j'invite en fait chacun, tout à chacun, mais dans toutes les communautés, c'est pas propre à une seule communauté, d'effectuer ce travail, en fait. Et quand je dis toutes les communautés, c'est, vous savez, même au sein de la bourgeoisie, c'est une communauté qui a ses préjugés par rapport aux autres. Eux aussi ont un travail à faire par rapport aux autres. On a tous un travail à faire. Et je pense que c'est la clé pour pouvoir mieux s'apprécier et se regarder, en fait, parce que c'est aussi une question de regard. J'ai appris à regarder l'autre par la lentille de l'estime et pas par celle du mépris. Et ça change énormément de choses, en fait.
Mohamed Bachili, vous dites aussi, ça je reviens dans votre relation avec Lubna, que vous avez lu un ouvrage, celui de John Gray, le fameux « Les femmes viennent de Vénus ». Enfin, en réalité, le titre, c'est « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». En quoi cet ouvrage vous a-t-il aidé à avoir des relations, outre des relations amoureuses et de tendresse, d'affection, mais en plus apaisées et respectueuses à l'égard de l'autre au sein de votre couple?
Ah oui, mais c'est un livre, sincèrement, qui a été quand même salvateur, parce que les premiers mois étaient quand même très compliqués, dans le sens où... En termes de communication, on ne comprend pas certains termes de la même manière, en fait. C'est-à-dire que je vais vous donner l'exemple. Quand Lubna disait « j'en ai marre », moi, je pensais qu'elle en avait marre de tout, qu'elle en avait marre de moi, qu'elle voulait me quitter. Alors qu'en fait, non. Quand une femme dit, et je l'ai appris justement dans ce livre, quand une femme dit « j'en ai marre », c'est juste « j'en ai marre de la situation actuelle oui. ». Voilà, c'est par rapport à un...
On va pas entrer dans le détail de ce qu'a pu faire et écrire John Gray, parce que certains ont critiqué le fait qu'il essentialisait les hommes et les femmes. Mais en tout cas, vous dites que l'ouvrage vous a aidé énormément.
Moi, il m'a clairement aidé. Et cette question d'essentialisation, je l'ai entendu, mais sincèrement, moi, pour avoir... vécu les choses, pour avoir mis en application, ça m'a beaucoup aidé. Et ça a également aidé Lubna. Après, on va pas rentrer dans le débat de la question des genres. En tout cas, la communication est quelque chose d'essentiel. Et j'ai envie de dire, et ça, c'est au-delà de la relation de couple, l'empathie. Faire preuve d'empathie émotionnelle, c'est super important. Mais aussi de l'empathie cognitive. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un me parle, quelqu'un qui est athée, qui me dit « Dieu, moi, je m'en fous royalement, mais je fais... » C'est pas quelque chose qui me choque, au contraire. Hein. Pourquoi ? Parce que je me mets dans sa tête à lui. Je me dis « Lui, il conçoit les choses autrement, parce qu'il a été programmé autrement. » Et pour moi, ça, c'est super important. Et c'est ce qui permet aussi de faciliter la communication.
Alors, chez certains fondamentalistes, ce qui est intolérable, ce n'est pas que quelqu'un... puisse y avoir un autre, c'est que qu'on puisse oser parler autrement et d'une manière dédaigneuse de ce à quoi je crois. Mais en réalité, c'est ce que vous dites, il faut avoir de l'empathie ou de la sympathie, partager un pathos oui. commun et synchrone, mais en tout cas de l'empathie émotionnelle et aussi cognitive, parce que les autres peuvent avoir leurs idées et je ne suis pas seul dépositaire de la vérité absolue.
Tout à fait.
Quelle a été la réception de votre ouvrage à la fois en Belgique, puisqu'il a été traduit dans plusieurs langues,
oui.
Le djihad de
oui.
l'amour?
En néerlandais, en anglais et en allemand. Mais je dois avouer que l'accueil a été, ça a été quand même quelque chose d'assez incroyable, pour être honnête, d'assez inattendu. Mais je pense que c'est à la fois pour les gens qui ne connaissaient pas l'islam, en tout cas pour les lecteurs non musulmans, c'était quelque chose qui leur a peut-être permis de voir autrement ce que pouvait être un musulman. Parce qu'on a tendance à voir les musulmans par le biais de la télé ou des médias, et c'est pas toujours très positif. Et là, ben voilà, on a pu découvrir un musulman lambda qui a vécu un drame, mais qui a aussi une manière de penser. Et sa manière de penser, finalement, elle est humaine, elle est humaniste, elle est normale. Et c'est quelqu'un, finalement, qui cherche juste à vivre en paix et qui, comme tout le monde, recherche le bonheur, en fait.
Et qui croit qu'il est réalisable dès ici-bas, dès ce monde-ci.
Ah oui, très clairement. Pour moi, c'est nous qui créons notre paradis. C'est tout est question de paradigme. Et le bonheur, il passe... Vous savez, bon, on va refaire une parenthèse parce que...
Je vous en prie.
Merci, mais moi je suis... J'ai pas... C'est encore une de mes intimes convictions. Et je le vis. Le bonheur passe par le fait de se sentir porté par quelque chose, une entité. On peut l'appeler Dieu, le cosmos, l'univers, mais de se sentir porté par quelque chose qui nous aime. Il faut se sentir aimé, en fait. Et c'est donné à tout le monde. On peut être croyant ou pas croyant. Mais à partir du moment où on se sent aimé et porté par quelque chose qui nous aime, qui nous anime, je pense que cela est une des voies, justement, pour atteindre ce bonheur, en fait.
Mohamed El-Bachili, il faut se sentir aimé, être porté et transporté même. Mais le « mais » n'est pas une restriction, c'est aussi aimer.
Mais à partir du moment où on se sent aimé et qu'on mue de cette manière, je pense qu'on ne peut qu'aimer, en fait. On ne peut qu'aimer. Mais avant cela, je pense que c'est pour ça que je mets l'accent. Il est essentiel de se sentir aimé et porté par quelque chose. Je n'ai pas envie de l'appeler Dieu ou autre. Je laisse le choix à tout un chacun. Toute conviction, toute croyance, voilà. Mais sentez-vous aimé par la nature, par Dieu, par le cosmos. Mais sentez-vous aimer et porter. C'est extrêmement important.
Et vous ajoutez à cela la connaissance. Il faut aussi apprendre, connaître, s'instruire, s'ouvrir sur le monde.
Mais la connaissance, c'est, comme je le dis, pour moi, c'est salvateur. Hein, il faut cultiver ce côté curieux, prendre du plaisir à connaître. Moi, j'ai, depuis tout petit, hein, même si j'étais pas très bon à l'école, mais j'ai été quelqu'un de très éveillé et très curieux par rapport à aux questions existentielles. Donc forcément, ensuite, l'histoire des peuples, l'histoire des religions. Et donc ça m'a permis aussi à moi de faire ce travail historico-critique par rapport à l'islam, parce que moi, voilà, on m'a transmis aussi un islam quand même assez traditionnel. Et donc, du coup...
Quasi folklorique.
Bah oui. Et donc, du coup, pour moi, ça a été une forme de libération. Et je me considère, en fait, en toute humilité, comme un esprit libre. Mais vraiment, et c'est un sentiment de bonheur, en fait. Le fait de se sentir libre et de ne pas avoir le poids de la culpabilité parce que je pense, parce que je réfléchis, parce que je me pose des questions, parce que je doute et parce que je vais c'est presque une pensée transcendantale, mais je trouve ça je trouve ça, en tout cas pour moi, je trouve ça merveilleux.
Et pour vous, je doute donc je suis dubito ergo sum.
Clairement. Thank you.
ensemble sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons particulièrement du djihad de l'amour. Je l'ai dit quelquefois, ça paraît oxymorique, c'est totalement antinomique, le djihad et l'amour. Et pourtant, déployer un effort, exercer un effort pour aimer, et surtout ceux qui ont été la cause d'un désastre absolu, perdre un être cher, l'amour de sa vie, il n'y a pas plus terrible pour une conscience humaine, pour une vie, pour quelqu'un. Ce que vous avez vécu, Mohamed El-Bachiri, et même avec cela, vous ne haïssez pas ces criminels. Pour cette dernière partie, Mohamed El-Bachiri, comment vivez-vous maintenant, si je puis vous poser cette question? Donc, les choses s'apaisent, on dit que toute chose naît petite et elle grandit, sauf l'effroi dû à l'annonce de la mort qui naît très grand et puis devient petit comme ça dans le temps, ou ça reste toujours vivace?
Et ça, je dois avouer que ça dépend des moments. Il y a des périodes down, il y a des périodes up. Mais bon, comme j'ai 3 enfants, il y a aussi cette nécessité, hein, et cette obligation aussi de rester debout et de continuer à vivre et faire en sorte de faire vivre mes enfants, de leur faire encore croire en la vie, croire aux hommes, croire à l'humanité, croire à toutes des belles choses et espérer. Et pour moi, c'est ma mission de vie, c'est-à-dire transmettre encore des belles choses et permettre à mes enfants encore d'être épanouis, de pouvoir rire, de pouvoir encore d'être heureux, tout simplement, en fait.
Oui. Et sur le plan personnel, là, on est sur un plan testimonial, c'est le témoin qui parle, et vous êtes venu à cette antenne pour parler comme témoin. Ça vous a poussé, et ceux qui vous écoutent, à prôner, à préconiser en tout cas une refondation de la pensée théologique, à revoir beaucoup de choses à propos de cette vision par trop traditionnaliste de la religion islamique.
Mais figurez-vous que j'étais déjà dans cette démarche, dans cette dynamique, bien avant ce qui m'arrive. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle on me dit « oui, tu as perdu la foi » ou « tu ne crois plus en Dieu ». Non, parce que j'avais déjà cette conscience que la religion peut être à la fois quelque chose de beau, mais elle peut aussi être quelque chose de terrible. Voilà, l'histoire nous l'a montré, et encore récemment, moi, nous avons été touchés dans notre chair par rapport à ces actes terroristes. Et donc, ça m'a simplement encouragé à continuer à effectuer ce travail de recherche, cette quête de vérité qui est permanente, mais tout en étant finalement un être subjectif, et atteindre l'objectivité, peut-être que c'est peine perdue, mais c'est un cheminement nécessaire, en fait. C'est un cheminement nécessaire parce que l'objectivité, c'est tendre un peu vers la sagesse, tendre vers la vérité. Et moi, je dis aussi souvent à certains de mes co-religionnaires, je dis, Dieu ne pourra jamais nous en vouloir de rechercher finalement la vérité.
Donc vous pratiquez en quelque sorte cet aphorisme qui dit, qui énonce, Dieu préférerait qu'on vienne à sa recherche le jour du jugement dernier tout en cherchant après lui, qu'en ayant cru en lui en le méconnaissant. Et qu'est-ce le méconnaître? C'est de ne pas l'honorer en l'homme. Lequel homme est récipiendaire, dans cette optique théologique, du souffle divin et réceptacle de l'effusion de bonté, d'amour et de miséricorde qui émane de l'être premier qui est Dieu.
C'est très beau et c'est à la fois complexe.
C'est complexe et ce n'est pas réalisable ou très peu réalisable.
Mais en tout cas, cette question de effectuer un peu le travail de Descartes, c'est-à-dire remettre tout en doute, pour moi, est quelque chose d'essentiel, et c'est quelque chose qui finalement honore l'humain Et honorer l'humain, c'est honorer Dieu.
Être au service de l'humanité, c'est ça la marque, c'est ce que vous voulez nous dire, et je l'ai lu dans votre ouvrage, l'adoration de Dieu passe par le service de l'humanité.
Très clairement, moi j'ai énormément de respect pour toutes ces personnes, tous ces penseurs qui ont fait évoluer les choses. J'ai parlé de philosophes grecs, mais les philosophes des Lumières, aussi bien dans le monde musulman que parce qu'on a aussi une période de lumière, je pense à Bagdad, que les Lumières ici au XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi.
Donc vous conjuguez ce que d'aucuns préconisent aussi, l'héritage de l'Aufklärung, des Lumières européennes, avec l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, qui est de nos jours totalement oblitéré, effacé des mémoires, insoupçonné même.
Mais j'ai été très très surpris, à la fois agréablement surpris, et aussi un peu déçu du fait que la période des Mu'tazilites, par exemple, était complètement occulte, alors que c'était la religion d'État pendant un siècle. Avec des questions qui, aujourd'hui, vous mèneraient au bûcher, j'ai envie de dire.
Oui. Alors, l'ennui, pour certains, c'est le fait qu'elle ait été doctrine d'État qui a fait en sorte que, par la suite, elle a été, en gros, combattue. Donc, il eût mieux valu, à l'époque, pour les Mu'tazilites, de ne pas accepter que leur propre doctrine fût, en gros, érigée comme doctrine d'État. Mais vous avez raison, les Mu'tazilites, un mot arabe qui renvoie à ceux qui se sont mis à l'écart, qui se sont isolés, qui se sont retirés. On a dû consacrer quelques émissions, en tout cas une particulière, au mouvement Mu'tazilite. Ce sont les premiers rationalistes de l'islam, oui. Et même dans la pensée théologique monothéiste pour certains. Mohamed El-Bachiri, le temps passe, nous arrivons et nous nous approchons du terme de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaitez encore passer comme message en plus, parce qu'il est essentiel, il est même suffisant, du djihad de l'amour, donc de l'effort à aimer? En réalité, aimer ne doit pas coûter, c'est pas coûteux d'aimer. Donc c'est spontané, c'est parce que vous en débordez.
Mais je pense que on a tous en nous cette force d'aimer. Il faut juste peut-être aller puiser, aller la chercher et la faire jaillir.
C'est un peu comme cette prière du soufi qui dit « Seigneur, dilate mon cœur afin d'accueillir toutes tes créatures, sinon pulvérise-le pour qu'ainsi atomisé chacune d'elles puisse recevoir une parcelle. »
C'est magnifique, on est clairement là-dedans, on est dans cette idée d'un amour inconditionnel, d'un amour puissant, d'un amour fort.
Incandescent
et charité bien ordonnée commence par soi-même, donc c'est l'amour d'abord pour soi et pour ensuite...
Et vous en donnez à vos enfants.
Ben oui, j'en donne à mes enfants et je fais en sorte qu'ils puissent aussi en recevoir et en donner, et je leur transmets aussi toutes ces valeurs de tolérance, de partage et aussi cette culture. On a parlé de culture. Moi, j'ai une culture à la fois occidentale et une culture islamique, et c'est merveilleux. Franchement, c'est quelque chose qui me...
Oui, j'ai dit qu'on est arrivé à la fin et vous posez une question fondamentale. En quoi la culture occidentale ne va pas de pair, si ce n'est pas ce que vous avez dit, avec la culture dite islamique? Et si c'est une culture islamique, laquelle? Puisque la culture islamique en Indonésie n'est pas la culture islamique au Suriname. Si, il y a j'aurais dû prendre le Maroc. En réalité, il y a la foi et les questions de l'environnement, du contexte social, politique, etc. Et vous plaidez pour la laïcité.
Ah oui, très clairement. Pour moi, la séparation de l'État et de l'Église, c'est essentiel parce que, encore une fois, pour moi, c'est le spirituel qui ne doit pas être souillé par le politique, parce que
ça œuvre et ça sert toujours le politique, jamais l'élévation spirituelle.
On est d'accord. Et donc, je parlais tout à l'heure de culture, et vous avez bien fait de préciser, culture qui islamique, mais dans un contexte bien, on se comprend bien, bien particulier. Mais je crois qu'il y a une culture qui est quand même essentielle, qui va au-delà de ça, c'est la culture du questionnement. La culture de la remise en question, la culture de la critique. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants. Pour moi, elle est très importante, cette culture-là. Et c'est une culture universelle.
Et donc, vous leur aiguisez l'esprit à côté des valeurs que vous leur transmettez, et notamment celles de l'amour, de la bonté, de la miséricorde.
C'est ça.
Bien, alors ce sont les mots de la fin. Merci Mohamed El-Bachili, merci d'être venu témoigner de ce que vous avez vécu vous-même et de cette blessure dans votre chair par ce djihad de l'amour. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam. Vous la retrouverez, je parle de l'émission sur comme celle de la chaîne, elle est à écouter, à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez les références, les musiques et les livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Olivier Dupré et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. We will hold on off like an enemy. Ein Leben nach Jesu, Musik ist Patriotism. Musik makes you sweat, so let's turn it down. Music makes you sweat.